Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Sikasso, vous nous écoutez sur la radio Kéné. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les sinistrés des inondations dues à la crue du fleuve Niger à Bamako et à l'intérieur du pays retournent progressivement dans leur domicile, un retour qui ne se fait pas sans difficulté. Retour volontaire de plus d'une centaine de migrants maliens refoulés de l'Algérie vers le Niger. Ce rapatriement a été rendu possible grâce au partenariat entre l'État et l'Organisation internationale pour les migrations. Grève des enseignants-chercheurs, la seconde phase du mouvement arrive à terme ce samedi 8 février. Mais les grévistes ne comptent pas lâcher, prise sans la satisfaction de leurs revendications. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilomaïga. Le retour des sinistrés se fait timidement après les inondations et la crue que le pays a connue cette année. À Bamako et à Mopti, beaucoup de familles ont commencé à regagner leur maison. Ce retour ne se fait pas cependant sans difficulté selon certaines victimes. Beaucoup évoquent des difficultés liées au manque de soutien et à la difficulté d'adaptation et la difficile adaptation au nouvel environnement après les dégâts causés par les eaux. Fatih Attara a fait un tour. Voici son compte-rendu.
À Djikoronipara, l'un des quartiers les plus inondés de Bamako, la famille Kouyaté a signé son retour il y a 2 mois. Vêtu d'une tunique grise et d'un pantalon blanc, le chef de famille Sadio Kouyaté affirme que le retour a été très pénible, car selon lui, la maison est à peine accueillante à cause de la perte de tous ses meubles.
On n'est pas trop à l'aise, parce que dans toutes nos chambres, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de meubles. On s'est débrouillé nous-mêmes pour pouvoir revenir chez nous. Socialement, je me suis senti seul face à une telle catastrophe.
À Kalabankoro, dans certains secteurs, l'air est au nettoyage. Ces familles ont cependant des réserves quant à leur retour, mais elles tentent tant bien que mal à rendre leur concession vivable avant de revenir.
Nous voulons retourner, mais on a peur. Cependant, comme on n'a pas le choix, on ira un jour.
On veut retourner, mais les maisons sont très humides. Elles ont été carrément englouties par les eaux.
À Mopti, beaucoup de gens ont réussi à refaire leur toit après les sinistres, malgré les difficultés. C'est le cas de Ousmane Arama qui déplore un manque de soutien.
Ma maison est complètement à terre. Je me suis quand même débrouillé à la construire de nouveau. À présent, j'ai pu faire une chambre. Je déménage bientôt. C'est l'aide qui fait défaut.
À signaler qu'à Bamako, tout comme à Mopti, les familles sinistrées ont formé des associations dont l'objectif est d'ériger des barrières. C'est là pour contrer les futurs dégâts liés aux inondations.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Deuxième semaine de grève de la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur. Les grévistes continuent de réclamer le versement des primes de recherche accordées aux enseignants-chercheurs par l'ordonnance de 2017 portant statut de professeur de l'enseignement supérieur au Mali. Dr Alou Diarra, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, affirme que le mouvement se poursuivra tant qu'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement, malgré la retenue sur salaire annoncée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dr Alou Diarra est joint par Mahmoud Agrissa.
La grève continue après la première semaine, c'est-à-dire les premières 144 heures. Nous avons entamé la deuxième phase, c'est-à-dire qui doit continuer jusqu'au samedi. Pour le moment, les 99% de l'enseignement supérieur est paralysé par cette grève. Ça veut tout simplement dire à chaque fois qu'il n'y a pas d'attente entre nous, la grève continuera. C'est renouvelé automatiquement les 144 heures. C'est un seul point cette fois-ci, c'est la prime de la recherche qui est une disposition dans l'ordonnance de 2017 qui est statut, qui donne statut à l'ancien chercheur et chercheur malien.
Le gouvernement a décidé de mettre en place un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Ce fonds sera alimenté grâce au prélèvement spécifique sur la consommation des services commerciaux de communication téléphonique et les opérations de retrait d'argent via le mobile monnaie. L'annonce a été faite dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2025. Ce fonds, selon le communiqué, servira à soutenir financièrement les initiatives publiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Les détails avec Lala Diahara Touré.
Dans son communiqué, le gouvernement ne donne pas de détails sur la façon dont il procédera à ces prélèvements. Mais un responsable du syndicat des travailleurs d'Orange Mali explique que désormais, sur chaque recharge de 1 000 francs CFA, le consommateur recevra 900 francs sur son compte crédit, soit un prélèvement de 10%. Concernant les transactions Orange Money ou Move Money, le client paiera le double, soit 1% pour l'opérateur et 1% pour l'État. En termes clairs, les frais de retrait de 10 000 francs CFA passent de 100 à 200 francs CFA selon le syndicaliste. Le Conseil des ministres explique qu'il s'agit d'une contribution spéciale de solidarité et d'une taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Outre cette disposition, le gouvernement a aussi revu la taxe applicable à toute personne titulaire d'une licence d'exploitation du réseau des télécommunications délivrée par ou pour le compte de l'État du Mali. Cette taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public passe de 5% à 7%. Cette taxe, selon le gouvernement, est assise sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications.
Je l'annonçais dans les titres, plus de 140 migrants maliens sont arrivés du Niger ce mardi 4 février 2025. Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre de retour volontaire des Maliens établis à l'extérieur. Selon Yaya Koné, administrateur de la cité d'accueil et d'information des Maliens de l'extérieur, cette opération est organisée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en collaboration avec le ministère des Maliens établis à l'extérieur. Il est au micro de Lale Tangara.
Nous avons accueilli 147 migrants maliens de retour en provenance du Niger. C'est un rapatriement organisé par le ministère des Maliens établi à l'extérieur en collaboration avec l'OIM. Les migrants sont rapatriés à bord d'un vol charter freté par l'OIM. Parmi les migrants, il y a 4 femmes et 5 enfants mineurs. Les migrants vont rester pendant 3 jours au centre ici pour les besoins d'enregistrement. Et au bout des 3 jours, ils seront libérés. La réintégration ou encore ce que vous appelez réinsertion socio-professionnelle, ça sera encore une activité, une synergie entre l'OIM et le ministère des Maliens établi à l'ESU. Donc c'est un travail qui s'effectuera par l'OIM en collaboration avec le ministère des Maliens établi à l'ESU.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Des engins à deux roues sont beaucoup plus utilisés comme moyen de transport en commun dans la capitale et ses alentours. Appelés mototaxis, leurs coordinateurs prennent souvent 2 ou 3 passagers à la fois. Une violation du code de la route selon l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. Les enfants sont des passagers de ces engins qui sont généralement source d'accidents routiers. Draman Maïga.
17h, c'est l'heure de la descente dans plusieurs écoles primaires au Mali. Et nous sommes devant une d'entre elles à la rive droite de la capitale. Nous apercevons Ami Cissé et ses 2 frères. Selon la fillette de 13 ans, ils attendent le conducteur de moto afin de rentrer ensemble. Pourtant, elle n'ignore pas les dangers liés au fait d'être 4 sur le même engin à 2 roues.
Avec cet accident provoqué,
le support à 3 provoque de graves accidents. La personne assise devant est plus exposée au danger. Certains d'entre nous viennent à moto. Souvent à 4.
De leur côté, des conducteurs accusent les parents d'élèves, car ce sont eux qui exigent que leurs enfants soient transportés en même temps. Soumeila Djakité, conducteur d'une moto-taxi.
Très souvent, ce sont les parents qui nous demandent d'amener 3 à 4 enfants à moto, car leurs enfants sont dans une même école. Si les enfants partent à la même moto, ça minimise le risque qu'ils se perdent. Aussi, le transport coûte moins cher, c'est dangereux, mais c'est aussi aux parents de confier leurs enfants au bon conducteur.
Les avis des parents divergent sur la question. Pour certains, aucune condition ne doit pousser les adultes à prendre de tels risques.
Actuellement, la situation économique est très compliquée pour nous.
Bien que le manque de moyens pousse les parents à mettre 3 ou 4 enfants sur le même engin, ce n'est pas bien, car la vie de ces enfants peut être en danger.
Les conducteurs de mototaxi doivent refuser de dépasser le nombre de passagers indiqués.
L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, appelle à plus de civisme sur les routes. Alassane Moussa Kanté est le chef de division éducation routière à l'ANASER.
C'est devenu même un problème de santé publique et majeur aujourd'hui de nos jours. Là, il faut un effort concerté de tout le monde, de tous les usagers, les conducteurs en supportant 2 à 3 personnes. Alors que la moto, dans sa conception, il n'y a que 2 usagers qui doivent être sur la moto, c'est-à-dire le conducteur et un seul passager. Le code est l'interdit formellement, puis c'est sanctionnable aussi en matière de répression.
À titre de rappel, un arrêté portant réglementation de la circulation des mototaxis dans le district de Bamako interdit tout chargement non conforme à la réglementation sur la mototaxi, notamment dans son article 7. La mesure a été prise par la mairie du district le 31 décembre 2020.
8h10, voilà qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Imirana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. La croissance chez l'enfant connaît plusieurs étapes jusqu'à l'âge adulte. Cette croissance se mesure en taille, en poids chez l'enfant, décrivent les spécialistes, car pour les pédiatres, tout être vivant est génétiquement prédisposé pour grandir. Mais quand ce processus est troublé, il peut être source d'inquiétude pour le parent, surtout quand leur enfant présente un retard de croissance. On dit qu'un enfant est en retard de croissance. Une bonne croissance est-elle synonyme d'une bonne alimentation? Plus d'éclaircissements dans ce magazine Tous les enfants, présenté par Lale Tangara en collaboration avec nos correspondants locaux.
Mes enfants, à la naissance, ils ne sont pas trop gros, mais en général, la moyenne ne dépasse pas 3 kg 100 maximum. Mais une fois qu'ils commencent un peu à grandir à partir de l'âge d'un an, 2 ans, ils grandissent vite, quoi.
C'était le témoignage d'Awa, une jeune maman. Contrairement à elle, Bintou Guindo est maman d'un enfant qui a subi une croissance physique insuffisante.
J'ai constaté que mon enfant de 2 ans commençait à beaucoup maigrir. Au centre de santé, après avoir pris son poids et sa mesure, les médecins l'ont diagnostiqué malnutri. Ils lui ont aussi donné de la pâte alimentaire et des médicaments. L'enfant, depuis ce jour, a retrouvé sa croissance normale.
Alors, une bonne croissance est-elle synonyme d'une bonne alimentation? Aruna Berthe, nutritionniste au CCRF de Djouéla, répond par oui. Selon ces médecins nutritionnistes, un enfant a besoin de bons nutriments riches en vitamines et protéines pour une bonne croissance.
Une bonne alimentation est riche et variée. Il contient pratiquement les 4 groupes d'aliments qu'on appelle les aliments énergétiques, les aliments de construction surtout, les aliments de protection, les aliments de régulation. Une alimentation riche et variée en ces 4 groupes contribue beaucoup à améliorer la croissance, à normaliser la croissance d'un enfant.
À Yorosso, les diagnostics de croissance chez les enfants connaissent une évolution positive. Adama Bamba, responsable nutrition du district sanitaire de Yorosso.
La croissance des enfants dans le cercle de Yorosso, elle est satisfaisante par rapport aux années 2012-2015. Il y a eu vraiment une grande amélioration. Donc la nutrition assure la bonne croissance de l'enfant. Raison pour laquelle dans le temps, avec ASDAP, nous avons développé plusieurs stratégies à travers l'ANCHE, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui nous a permis quand même d'éradiquer plus ou moins le retard de croissance.
Professeur Boubacar Togo, responsable du département pédiatrique du CHI Gabriel Touré, cite d'autres facteurs comme génétiques et environnementaux qui peuvent retarder la croissance d'un enfant. Il précise également que tous les organes doivent fonctionner normalement pour une croissance normale. Il avance qu'un enfant dont le poids est petit par rapport à son âge est médicalement en retard de croissance.
Il y a une hormone qui est spécialisée dans la croissance d'un être humain, appelée hormone de croissance. Il y a des gens qui sont dépourvus de cette hormone de croissance et donc ces gens vont rester, en tout cas ils ne vont pas grandir suffisamment. Et puis il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il faut que l'organisme de l'enfant soit intact. C'est-à-dire, il faut que son cerveau fonctionne normalement, il faut que son cœur fonctionne normalement. Parce que dès qu'il y a malformation cardiaque, la croissance est ralentie.
Comment prendre en charge ces enfants qui ont des problèmes de croissance? Professeur Boubacar Togo met en avant plusieurs options de traitement.
Si l'enfant a un déficit, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'hormone de croissance, on ne va pas l'opérer. On lui apporte une hormone de croissance. C'est exogène. Ça va lui permettre de grandir. Et puis, s'il y a d'autres maladies qui ralentir sa croissance, une malformation cardiaque, là il faut opérer. Ou bien une malformation rénale, mais toutes les situations ne sont pas opérées. Il y a des situations qui se traitent uniquement par médicaments.
Au nord du Mali, l'aire de santé des Direi, région de Tombouctou, connaît aussi ses pathologies liées à la croissance chez les enfants. Les causes citées par les spécialistes de la santé sont notamment l'absence totale de consultation prénatale par la maman pendant la grossesse, l'anémie et l'hypertension artérielle.